Amis de Radio Silence, bonjour. Ça fait un moment, j'ai pas fait d'émission. C'est tout simplement que je sors d'une confrontation avec on va appeler ça la malaria africaine, un paludisme cérébral terrible qui m'a fait hospitaliser. Et ça prend du temps pour récupérer ces choses-là. On entend parler du paludisme, mais alors celui-là qui vous en serre, je veux dire, vous avez comme un anneau autour du cerveau, c'est terrible. Et il paraît que ça tue aussi rapidement qu'un AVC. Donc j'ai côtoyé la mort de manière très surprenante. Parce que c'est un truc insidieux. Donc ça arrive et ça vous coupe la faim, ça vous coupe la soif. Et au bout d'un certain temps, vous aurez une aggravation de la maladie, du fait de la déshydratation et puis d'un affaiblissement comme ça parce que vous n'avez pas mangé. Mais tout ça va tellement vite que vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte que vous êtes déjà hospitalisé, en état d'inconscience, bien évidemment. Et je suis là, je remercie le Seigneur, grâce à Dieu. Et vous savez, c'est quand on passe par ces moments-là qu'on apprécie la vie et qu'on se dit, oh mon Dieu. Mon Dieu, merci, merci, merci. Donc je suis un peu, on va dire, pas ressuscité, c'est pas le Christ, mais je reviens quand même de loin, et en ce moment, ça va, ça va. Je me réjouis d'être donc vivante, d'autant plus que je suis restée là pour voir l'après-présidentielle, parce qu'il me semblait que cette histoire n'était pas terminée, et effectivement. À l'occasion de l'arrestation du professeur Camteau, vous savez, qui était opposé au président Biya, son parti, c'était le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Il a toujours dit qu'il y a eu un hold-up électoral, et donc il n'est pas d'accord, et qu'il contestera jusqu'au bout. C'est vrai que sa détermination, alors que le Conseil constitutionnel a déjà, comment on va dire, statué sur la question en jugeant son recours irrecevable, sa détermination, elle a quand même donné lieu à des interrogations, et d'autant plus que les résultats sont arrivés tellement tard qu'il est évident qu'il y a eu un tripatouillage quelque part, et ça c'était gênant, et donc M. Camteau, il n'a pas tout à fait tort. Même si sur le plan du droit, il faut qu'il prouve qu'il a raison. Et le Conseil constitutionnel étant le dernier juge, le juge suprême en ce qui concerne la question électorale, il est un peu noyauté par la loi, par le droit, mais n'empêche qu'en son âme et conscience, et compte tenu du déroulement du scrutin, lui, il a la certitude qu'il a été volé et que son devoir de citoyen lui demande de résister à cette injustice-là. Il a d'ailleurs dit qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'où est-il prêt à aller? Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il a donc organisé une marche. Qui n'a pas eu lieu parce que l'État est venu, les forces de l'ordre ont interrompu la marche, les ont arrêtés, lui avec son staff dirigeant, et depuis ils sont écroués à la prison centrale de Yaoundé qu'on appelle Kondengi, où en fait on détient les prisonniers politiques. D'où donc déjà un grand souci parce que ils exerçaient comme ça un droit citoyen. Qui est libre de marcher, mais en même temps, le motif hold-up électoral a fait problème. Le motif pour lequel on défilait hold-up électoral a fait souci parce que il venait comme ça poser un défi au Conseil constitutionnel qui avait déjà statué. Et quand il statue, voilà, c'est le juge suprême, on revient pas là-dessus. Donc il y a une forme d'outrage à magistrat dans cette démarche. Et au-delà de cela, Le gouvernement a estimé que l'appel de M. Kanto à défiler pour un hold-up électoral était un outrage à l'autorité publique que représente donc le chef d'État élu, et c'était aussi assimilable à une incitation à la rébellion et aussi à des actes de subversion, toutes choses qui sont contre la sécurité de l'État. Et vous savez que la sécurité de l'État, c'est un droit régalien, et l'État doit assurer la sécurité, et on ne peut pas se permettre de laisser un opposant comme ça appeler à la subversion, bon, ou appeler à la sédition, d'autant plus que le Cameroun est dans une forme de guerre, on va pas dire larvée. C'est une guerre civile qui s'annonce, mais en même temps qui est contenue. C'est que tout le côté anglophone est un peu en rébellion hein, contre le pouvoir central de Yaoundé. Il se passe presque plus rien là-bas, on n'est au courant de rien. Le gouvernement entretient un silence. Malheureusement, le silence n'annule pas la réalité et les faits, qu'il y a guerre de ce côté-là. Donc, de là à assimiler la démarche de M. Kamto à une forme d'association secrète avec cette partie anglophone qui sera en guerre, le gouvernement a vite franchi le pas et nous y sommes. M. Kamto a accusé donc de tout cela, de comment on va dire, de vouloir pratiquement renverser l'État. Et ça c'est un souci. Donc, dialogue de sourds entre M. Kamto qui lui fait valoir que non, on ne peut pas lui reprocher des faits de droit commun, puisque c'est ce que le ministre de l'Information, M. Sadi, dit, alors que on lui reproche, enfin, on lui reproche alors que dans le même temps, il est en prison sans qu'il y ait le moindre procès, sans que les principes de la garde à vue n'aient été respectés. Donc, M. Kamto dit que derrière le miroir de la justice, le régime en place lui impute un certain nombre d'actes dans le dessein évident, là je le cite, hein, d'embastiller les alliés pour le changement, de paralyser leurs activités politiques, de terroriser les populations et d'anéantir les balbutiements de la démocratie afin d'instaurer le totalitarisme au Cameroun. Bien, c'était en fin janvier qu'on avait arrêté M. Kamto dénonçant ce hold-up électoral. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est vrai que là, on est dans une sorte d'impasse. Puisque sur le plan de la loi, oui, le Conseil constitutionnel a déjà dit irrecevable, et puis de l'autre côté, il est normal que quelqu'un qui se sente floué demande justice, mais alors comment on fait? Comment on fait? On est dans l'impasse. J'ai la chance. Dans mon malheur, dans ma maladie, d'avoir obtenu de l'Institut universitaire des sciences et techniques, je ne sais plus la communication ici, de faire un petit cours sur la communication politique et publique. Alors, avec les étudiants, on a vu ces choses-là hier, parce que le cours a lieu les vendredis, et ça tombait bien parce que parmi les exemples, il y a un acteur de poids qui est entré en jeu, c'est le département d'État américain. Le département d'État américain a fait un rapport sur. Donc, il a fait un rapport sur l'élection camerounaise et il arrive à des conclusions qui vont dans le sens de M. Kamto. Voilà. Et puisque. Ce département dénonce carrément des irrégularités dans ce scrutin, des irrégularités qui seraient déjà dues au fait que la longévité du président prête déjà à caution. Une trop grande longévité crée des monarques, 36 ans quand même, 35 ans de gouvernance, c'est trop. Mais plus que cela, il y a eu, d'après ce rapport, donc qui fait suite à une enquête, une intimidation des électeurs et des représentants des candidats sur les lieux de vote, il y a eu un affichage tardif des lieux de vote et des listes électorales. Il y a eu certainement un bourrage des urnes et donc des électeurs inscrits plusieurs fois et une possible manipulation des résultats du vote. C'est ce que le rapport soutient. Et le représentant donc de M. Trump est attendu au Cameroun pour, avec ce rapport-là et avec ces griefs-là pour pas demander des explications, mais quand même motiver le fait que compte tenu de toutes ces irrégularités, détenir M. Camteau de cette façon-là était un peu abusif et qu'il fallait et que de ce fait, il faudrait revoir les conditions de détention de M. Camteau et probablement le libérer et entrer dans une forme de dialogue. Mais à côté de cette question-là, dans des organisations, bon, évidemment, on s'est réjoui parce que ELECAM, l'organisme chargé de comment on dit, de faire les listes électorales, est sorti hier dans la foulée. On appelle ça une communication de crise, a réagi. C'était très intéressant pour les étudiants, ça. On a vu la communication de crise, comment un gouvernement est obligé de réagir dans la précipitation parce qu'il est vraiment accusé de quelque chose pour lequel il faut réagir, même si en temps normal, on a tendance à mépriser. Et là, l'organisme est sorti pour dire oui, c'est de leur faute, c'est en fait lié vous savez, les logiciels biométriques qu'ils reçoivent probablement de l'Allemagne. Peut-être c'est l'Allemagne qui a tort, mais l'Allemagne ne triche pas. Et il y a eu des doublons, c'est vrai. Enfin bon, ils essaient comment dire, de porter la casquette. Vous voyez, il faut bien sacrifier, que quelqu'un se sacrifie pour justifier tout cela. Et l'ECAM dit oui, cette fois-ci, nous avons des élections régionales, municipales, législatives annoncées pour cette année. On va bien faire, on va faire mieux, etc., etc. C'est un aveu tardif, mais qui dit bien que M. Camteau avait raison. Et ça conforte la visite du représentant de M. Trump, donc monsieur chargé des affaires africaines, le conseiller ici au Cameroun bientôt, qui va donc non seulement voir la question de M. Camteau, mais surtout aussi celle inévitable, parce que c'est lié, celle inévitable de la crise anglophone, donc la partie anglophone qui veut une sécession avec la partie francophone, pour les mêmes raisons en fait que M. Camteau, avance, des raisons d'exercice et de pratique du pouvoir qui ne sont pas acceptables, ou plutôt convenables. La crise anglophone, les anglophones, le Cameroun est supposé être bilingue. Lorsque la crise a commencé, on a créé une commission, là encore, communication de crise, une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Bon, ça c'est encore des grandes structures. Vous savez, ça c'est comme en France, s'il y a un problème, on répond par la création d'une structure. À une époque, c'est la CONAC qu'on a créée pour lutter contre la corruption, parce que le Cameroun a été deux fois classé pays le plus parmi le top hein, des pays corrompus au monde, donc encore communication de crise. Là, si le bilinguisme qui a été créé, on fait la promotion, je ne sais pas pourquoi, nous étions déjà unis, on s'était entendus. Mais le compte n'y est pas pour les anglophones, parce que on voit une guerre, enfin, on voit une lutte, on voit une rébellion, on voit les armes qui parlent, mais on essaye, le gouvernement a dit oui, mais arrêtez la guerre, nous allons accorder une amnistie totale à tout le monde, déposer les armes. Ça ne suffira pas parce que la question est fondamentalement politique et au-delà du politique, elle est diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'en parlais hier avec mes étudiants, ça veut dire que les anglophones, derrière cette guerre, cette rébellion, il y a un problème de divergence culturelle fort. Divergence culturelle et revendication idéologique qui plonge dans la décolonisation. En fait, Les Britanniques, le côté anglophone, vous voyez, c'est la tradition. Les Britanniques sont partis de l'Afrique. Ils ont décolonisé le Nigeria, par exemple, qui est notre voisin. Le Nigeria a sa monnaie, le Nigeria est indépendant. Les Britanniques sont partis. Ils ont essayé de résister un peu en Afrique australe, c'est normal, du sud, parce que là-bas, il y avait la question des terres qui compliquait beaucoup l'histoire. Mais les Britanniques sont partis, chacun a sa monnaie. Même le Zimbabwe a sa monnaie. Alors, il se trouve que la décolonisation française n'en finit pas, ils partent pas. Ils ont toujours la même mise sur l'État camerounais, ce qui, déjà pour les anglophones, ne peut pas passer. On est libre ou on n'est pas libre. Et vous avez vu que la question du franc CFA est venue justement permettre de toucher du doigt ce que les anglophones ne veulent plus voir, la présence française. Dans le précaré africain, ça, au Cameroun, les anglophones n'en veulent plus. C'est soit la partie francophone continue avec la France, soit eux, les anglophones, ils sont plus dans cette histoire-là et ils demandent de se séparer des francophones. Donc, vous voyez, c'est profond la revendication. C'est pas une revendication juste comme on essaie de dire le bilinguisme, les anglophones contre les francophones. Non, c'est une revendication carrément de la liberté et c'est une revendication qui va plus loin diplomatiquement et qui demande tout simplement à la France de partir du Cameroun, de laisser le Cameroun libre à la fois de fabriquer, de frapper monnaie et de toute l'emprise qu'il y a autour de ces privatisations sauvages qui sont arrivées, qui ont eu seulement pour but d'accaparer toute la richesse et tous les emplois des Camerounais. Non, dans la tradition anglo-saxonne, ça ne marche pas comme cela. On n'accepte pas cela. Et là, le Cameroun va avoir un gros problème pour résoudre cela parce que c'est ni plus ni moins que le départ de la France qui est exigé. Il y a une tradition anglo-saxonne, une pratique, parce qu'on en parlait hier, l'exercice et la pratique du pouvoir. L'exercice et la pratique du pouvoir du côté anglo-saxon et du côté latin. La latinité, ça reste vraiment français, parce qu'on voit bien que même l'Italie n'est plus là-dedans. C'est complètement opposé. Vous avez les anglo-saxons, et là on en plaît, par exemple, prenez le dernier exemple qui est la décentralisation. On veut faire la décentralisation ici, on en parle, puis on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Les anglo-saxons, eux, ils sont pour le fédéralisme. Et les francophones vont dire décentralisation. Mais décentralisation, on a vu en France. C'est juste une forme de recentralisation de l'État au niveau local. Donc ça ne résout pas vraiment les questions de développement local comme ça devait le résoudre. Ça ne résout pas les questions de la liberté de la décision locale. Ça ne résout pas les questions de la mise vraiment en compétition libre et concurrence, j'allais dire, légitime des territoires. Ça ne résout pas la question du dynamisme même de ces territoires qui sont toujours un peu comme ça. Verrouillé enfin, par le haut, par la trop forte puissance de l'État. C'est de tout cela qu'il s'agit dans la crise anglophone, fédéralisme ou décentralisation, et étant entendu que cela engage des façons de faire totalement différentes, et notamment cela engage déjà de ôter la chape de plomb de l'État qui étouffe trop le développement ici et qui est trop lié au partenariat étranger par des voies opaques et non, comment on peut dire, non vérifiables. Et on ne peut même pas questionner. Et ça, on est au cœur de la démocratie. On est au cœur de la pratique du pouvoir. Soit le Cameroun va accepter ce que les anglophones demandent, et donc le départ de la France, soit on sera vraiment dans l'impasse, et effectivement, à ce moment-là, l'Amérique est obligée d'intervenir parce qu'il n'y a qu'une puissance étrangère comme elle qui va arriver à faire en sorte que les verrous sautent. Et ces verrous, malheureusement, c'est le CFA. Et c'est le départ de la France, de l'Afrique francophone. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt. C'était Lise Mbok, je suis toujours au Cameroun. C'était, vous avez écouté Flash sur le monde et portez-vous bien.